Le Mag de l'Immo by Bérénice sur Radio Immo.
Et oui, bonjour, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans ce live, le Mag de l'Immo, désormais c'est en direct sur LinkedIn. À chaque fois, on traite d'un sujet brûlant qui concerne l'immobilier, le logement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement locatif en déclin. De moins en moins de propriétaires de Français veulent investir dans la pierre, trop de contraintes, trop de taxes, beaucoup trop d'impôts, une rentabilité pas forcément là. On va en parler avec mes invités aujourd'hui. Quatre experts, quatre acteurs de premier plan même, j'ai envie de dire. Alors avec moi, Jean-Louis Vesperini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la région Sud-Ouest pour Foncia. Vous êtes également le directeur des opérations et le directeur du développement commercial. Donc Foncia, je rappelle que vous êtes le premier administrateur de biens de France. Hein. Vous êtes leader.
Exactement. On est leader en France et en Europe.
Donc administration de biens, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, en gros, vous gérez, vous proposez les services liés
à l'immobilier.
Voilà. Stéphane Descartiers, juste à côté de vous, bonjour, grand expert, fondateur également de SD Conseil et Formation.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
Alors heureusement que vous êtes là, vous allez nous aider à décrypter un peu l'actualité législative, parce qu'on va en parler, il y a des nouveautés pour les propriétaires bailleurs. Aujourd'hui, je rappelle qu'on parle des propriétaires particuliers qui louent un bien ou qui louent des biens, voilà, ça vous concerne. Donc on va tout décrypter aussi avec vous, Stéphane. Sylvain Gratalou, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Alors on était obligé de vous inviter pour cette émission, parce que vous êtes le président de l'UNPI, 35 millions de propriétaires.
Absolument.
Alors l'UNPI, c'est l'Union Nationale de la Propriété Immobilière.
Oui, exactement.
Voilà, donc vous défendez les propriétaires.
On défend, on soutient les propriétaires et la valeur propriété qui, pour nous, est essentielle dans notre société.
Et ils en ont besoin en ce moment. Absolument. Les propriétaires, on va en parler. Anthony Denet, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir. Alors, vous êtes journaliste pour Immo Week, donc vous êtes au courant de tout ce qui se passe concernant l'immobilier, le logement. Vous essayez en tout cas, mais merci d'être là. C'est vrai ça va nous permettre de décrypter les choses en profondeur. Alors, je rappelle que donc, nous sommes en direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra si on a le temps à la fin. On va commencer tout de suite avec un état des lieux, peut-être du marché locatif. Pourquoi les investisseurs particuliers sont-ils indispensables au marché locatif ? Alors déjà, un petit point sur le nombre de propriétaires. C'est vrai qu'il y a les données de la FNAIM, Anthony.
Oui, en effet. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a environ 17,6 millions de ménages qui sont propriétaires de leur résidence principale, ce qui fait environ 57,7%, tandis que 7,5 millions de ménages occupent un logement locatif privé, donc un quart des résidences principales, et 5,3 millions sont logés dans le parc social ou intermédiaire. Le parc privé est détenu à 97% par des personnes physiques et 13% des Français sont des bailleurs privés. Donc plus de 1 Français sur 10 qui est quand même un bailleur privé en France, ce qui est une donnée quand même à prendre en compte. Alors j'ai dressé un petit portrait robot du bailleur privé.
Alors on va en venir dans quelques instants, juste un petit mot sur ces chiffres. C'est vrai que la France, par rapport aux autres pays européens par exemple, où on en est en fait, Stéphane?
Alors, surtout ce qui a créé un problème en France, c'est que jusqu'aux années 90, on avait pour les bailleurs, on avait un tabouret à trois pieds. On avait le logement social, les particuliers et les institutionnels. Il y a eu un départ massif des institutionnels à partir des années 90, notamment après le bail 89. Et ils ont quand même vendu 1 million de logements, en une dizaine d'années. Donc, ça a créé un déséquilibre très important. Et c'est notamment pour pallier au départ des institutionnels, parce que ce million de logements, il s'est vendu, notamment, il a été recyclé essentiellement en résidence principale. Et donc là, il y a eu un manque énorme. Et c'est pour ça qu'on a vu arriver les lois Meignery, Périssol, Quilès, jusqu'à la loi Pinel d'aujourd'hui.
Pour inciter les Français à investir.
Qui était en fin de compte pour sponsoriser les particuliers, parce que le départ des institutionnels a déséquilibré totalement le marché et on s'est retrouvé à un tabouret sur deux pieds. Ça tenait plus la route. Donc c'est pour ça que l'État a dû subventionner et sponsoriser les particuliers pour pallier au départ des institutionnels. C'est ça,
concrètement,
le fait majeur depuis 30 ans.
C'est bien de rappeler qu'on a besoin des Français, des particuliers, pour créer du logement.
Bien sûr, parce que le logement social ou le semi-social type 1% logement ne peut pas tout. On a besoin aussi des bailleurs privés. Les institutionnels, on essaie de les faire revenir depuis des années, mais ça ne fonctionne pas. Ils ne reviennent pas.
Pourquoi ?
parce qu'ils n'ont pas assez de rendement, hein, tout simplement. Sur les secteurs tendus, les institutionnels, même s'ils achètent moins cher, ils vont faire globalement au mieux du 4% brut. Mais si on enlève les charges, etc., on se retrouve effectivement à des rendements qui ne sont pas satisfaisants avec des bouts de 6 ans, etc. Donc, le logement pour les institutionnels, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Sur la logistique, ils vont tout de suite avoir du 7%, etc. Donc, là, on a un problème parce que les institutionnels ne reviennent pas. Et les particuliers, comme on va le voir malheureusement aujourd'hui, commencent à partir aussi. Les contraintes, les plafonnements des loyers, tous les éléments qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, on a un bug majeur, tout simplement.
Alors, Sylvain Grattalou, vous qui êtes à la tête du syndicat qui défend les propriétaires, qu'est-ce que vous voyez justement concernant la part des propriétaires bailleurs versus la part des propriétaires occupants ?
Tout a été dit par les chiffres qui ont été dits par les deux personnes qui sont intervenues préalablement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette situation dans laquelle nous nous trouvons est assez inédite, parce qu'en réalité, notre France a été construite depuis 2 siècles sur un attachement profond à la propriété, à la fois la propriété dans le cadre d'une résidence principale, mais tout simplement, les Français sont fiers, quand ils sont propriétaires aussi, de loger leurs concitoyens. Et c'est vraiment une démarche qui est une démarche, je veux dire, citoyenne. Et aujourd'hui, cette démarche citoyenne est complètement abîmée, parce qu'on ne les reconnaît pas à travers cette dimension économique, on ne les reconnaît pas à travers cette dimension sociale, et la dimension environnementale leur a imposé dans des conditions qu'ils ne peuvent pas satisfaire. Donc, finalement, cette absence de reconnaissance les invite à avoir finalement des replis individualistes, chacun pour soi, puisque finalement, nous ne sommes pas reconnus. Et ce qui est un peu troublant, et c'est ce vers quoi il faut tendre, c'est que je pense que les pouvoirs publics, à travers les 35 millions de propriétaires, voient 35 millions d'unités.
Oui.
Mais ne voit pas une entité qui a un rôle essentiel dans notre société. 35 millions de propriétaires, on ne peut pas les négliger, à la fois en tant que résidence principale, occupant, parce que ce sont des Français dont l'État n'a pas à se préoccuper. Ils se logent eux-mêmes, première chose. Deuxième chose, quand il y a un investissement qui est réalisé, et puis là aussi, il faut faire tomber des mythes, à savoir que le propriétaire, le multipropriétaire, c'est sa résidence principale, puis un petit bien, voire deux. C'est pas plus.
Et donc en moyenne, c'est ça. C'est 1, voire 2 biens.
1,6 exactement. Donc si on veut raisonner en termes de moyenne. Donc c'est vraiment très faible. Et tout ça, ça correspond à quoi ? Des enfants qui font des études, plutôt que de louer, allez, on fait un petit investissement, qui nous servira par la suite pour compléter des revenus ? Donc non seulement
à la retraite, par exemple.
À la retraite. Ouais. On loge les Français, et en plus, on fait en sorte que les revenus soient. Les pensions de retraite soient complétées par ce type de revenus, dispensant ces mêmes Français de solliciter encore une fois la collectivité.
Donc d'être moins dépendant. Pendant à la retraite, par exemple,
de l'État et des actifs. Tout intérêt à encourager tout cela.
Je rappelle qu'on a un système de retraite par répartition qui va de plus en plus mal.
Bien sûr. Et là, on voit bien que ce système qui a été mis en place les invite d'abord, ils sont profondément inquiets. Et puis les jeunes, aujourd'hui, c'est difficile de les conseiller. On ne va pas le dire que ce n'est qu'une période conjoncturelle un peu difficile. On n'est pas que dans le conjoncturel. Qui peut dire ce que sera la propriété dans 30 ans ?
Bien sûr.
Moi, je vais vous dire que ça sera toujours là parce que je suis attaché à cette valeur.
J'espère.
Mais pour autant, quel type de propriété aussi ?
Ouais. Alors, on va faire le point avec vous, Jean-Louis. Bon, vous représentez donc le premier administrateur de biens, donc les administrateurs de biens, on va dire, en France. Quelques chiffres. En 2024, c'était 400 000 biens que vous avez en gestion locative. Et vous avez réalisé donc 60 000 mises en location. C'est 10 000 de moins que l'année d'avant.
Exactement. Donc on voit que le marché est en recul. Aujourd'hui, les locataires restent plus longtemps dans leur bien, ce qui ne se produisait pas jusqu'à présent. La transaction est en recul aussi. C'est la première fois depuis je ne sais combien d'années qu'on a vu un marché de la transaction et un marché de la location reculer pratiquement en même temps, alors que c'est un marché de report généralement. C'est-à-dire que quand l'un va, l'autre va un peu moins bien. C'est comme ça que ça marche. Et là, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc, effectivement, je vous confirme, on est en recul. Et on connaît les raisons qui viennent d'être évoquées, qui sont bien évidemment les quelques mesures gouvernementales qui ont été prises dernièrement, qui ne sont pas très, très au fait du déploiement des logements. ce qui se passe bien évidemment dans le neuf aussi, hein, ouais. Parce qu'il y a un recul du marché du neuf qui est quand même assez important aujourd'hui.
En termes de construction, hein,
vous... En termes de construction, donc de logement, donc sur le besoin de logement, voilà. Voilà ce qui se passe à peu près.
Donc voilà, donc un tableau quand même assez inquiétant. Stéphane, c'est vrai que là, les propriétaires, on peut le dire, ils ont peur au final, ils ont peur. Les Français ne sont pas incités à investir. Est-ce qu'on est arrivé, on va dire, à une fin de cycle ?
Le problème, enfin une fin de cycle, oui. Aujourd'hui, les bailleurs font un constat, et notamment sur les secteurs où on a le plus besoin de logement, c'est-à-dire les secteurs tendus. Et le problème, c'est que sur les secteurs tendus, le bailleur est pris dans un étau, en fin de compte, entre, bon, d'un côté, une réglementation quand même extrêmement stricte, extrêmement dure, et de l'autre côté, une fiscalité qui est quand même délirante, notamment sur le nu. Ouais. Et surtout, l'étau que représente sur tous les secteurs tendus qui plafonnent les loyers, donc Paris, Lyon, Bordeaux, Montpellier et toutes les villes qui font la demande du plafonnement des loyers, donc c'est accordé quasiment systématiquement. Donc, si on prend l'exemple de Paris, par exemple, aujourd'hui, Paris, le parc locatif privé est passé, je crois qu'il y avait encore 1 million dans le parc locatif privé à Paris dans les années 50. On est passé à 600 000 dans les années 90. On est à 300 000 aujourd'hui seulement. Donc, le parc a fondu des deux tiers à Paris. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le plafonnement des loyers à Paris va nous donner en rendement du 3% brut. Si on enlève ces charges, taxes foncières, frais de gestion, etc., on tombe à 2%.
C'est la famille si qui a des bons chiffres. À Paris, il n'y a que 33% de ménages propriétaires.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un marché de locataires. Ouais. Donc, la démocratie s'applique, hein, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a le plafonnement des loyers. Mais ce plafonnement nous donne donc du 3% brut. Si on enlève nos charges, taxes foncières, frais de gestion, on tombe effectivement à 2%. Vient ensuite la fiscalité. Donc, la fiscalité, dès la deuxième tranche à 30%, plus les prélèvements sociaux à 17,2%, donc on tombe à 1% de rendement. Donc, qui peut se satisfaire de 1% de rendement ? Et si vous êtes à l'IFI, ça vous coûte de l'argent de louer, Bérénice. Ça vous coûte de l'argent de louer.
Donc, l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière.
L'impôt sur la fortune immobilière. Ouais. Et après, on se dit, ah, mais il y a trop de logements vacants à Paris, etc. Les gens ne veulent pas louer. Mais enfin, quand ça vous coûte de l'argent
de louer... On perd de l'argent
louer,
en louant.
On perd. Si vous êtes à l'IFI, vous perdez de l'argent.
Vous avez fait des bons calculs, hein, parce que...
ces calculs sont... Enfin, je veux dire, c'est des données...
Parce que j'avais vu que vous aviez marqué ça sur LinkedIn. Je crois que vous étiez fait un peu alpaillé par tout le monde.
Oui, tout à fait. Mais enfin, c'est l'expression de la plus pure vérité des chiffres. Là, je veux dire, il n'y a pas à chercher midi à 14h.
Donc aujourd'hui, certains propriétaires perdent de l'argent à louer leurs biens.
Oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut véritablement en vouloir à des gens qui cherchent d'autres solutions ?
Je vois Jean-Louis.
Lorsque ça vous coûte effectivement de l'argent de louer, donc c'est pour ça que moi, depuis que j'ai vu arriver le plafonnement des loyers, il n'y a plus aucun investisseur sensé qui investit à Paris. C'est terminé.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable. C'est vrai que l'encadrement des loyers est fustigé par les professionnels de l'immobilier, par les propriétaires, mais il sert aussi à défendre certains locataires. C'est vrai que certains propriétaires, moi, quand je suis arrivée à Paris, par exemple, j'étais étudiante. Les loyers étaient exorbitants à l'époque. Il n'y avait pas de... Ils le sont encore, voilà.
C'est une bonne chose pour les locataires, il n'y a pas de discussion. Et effectivement, la démocratie s'applique, c'est-à-dire que Paris est une ville de locataires, donc la mairie va dans le sens de sa population, de ses administrés, en réglementant et en plafonnant les loyers. Mais sauf qu'il n'y a plus d'investisseurs privés, quoi.
Du coup, ça donne envie d'investir. C'est vrai que les crédits, le crédit à rembourser pour les propriétaires derrière est assez élevé, on va dire, les mensualités. Et avec l'encadrement des loyers, il ne s'y retrouve plus. Jean-Louis, vous vouliez réagir sur la perte d'argent quand on loue son logement, quand on est propriétaire.
Oui, parce qu'on oublie souvent quelque chose. C'est la valeur du bien, déjà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de biens qui sont quand même assez anciens, qui ont été achetés, dont les crédits ont été payés, et qui ont été revalorisés, surtout à Paris, d'ailleurs, entre guillemets, au prix du mètre carré. Donc, clairement, il y a quand même une valorisation du bien, je pense, et c'est peut-être là où... Monsieur s'est fait interloquer, mais je pense que ça peut être là, voilà, tout simplement. Non, parce que ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est que clairement, la problématique, c'est que l'encadrement des loyers, alors on va prendre Paris comme exemple, mais on peut prendre plein de villes comme exemple, c'est l'encadrement augmente moins vite que le marché. C'est-à-dire que clairement, il y a 3-4 points de moins que le marché. Donc déjà, il faudrait se reposer la question de l'encadrement des loyers pour arriver déjà à quelque chose qui soit un peu plus cohérent, parce que l'encadrement a quand même du sens, malgré tout, pour réguler un marché, ça a du sens, voilà. Et le deuxième point, c'est bien sûr le taux de crédit. Le taux de crédit aujourd'hui qui est à 3,2, je crois, en moyenne maintenant, ou 3,4, si ma mémoire est bonne. Il faut se souvenir aussi qu'il y a des années où on empruntait à 10-12%, donc qui étaient des années d'ailleurs où on a cédé les logements sociaux, par exemple, et avec une inflation assez forte. Donc tout ça, c'est que des mathématiques, clairement. Donc aujourd'hui, acquérir un bien, en tous les cas pour moi, ça reste toujours positif. Bien sûr, il faut bien l'acquérir, mieux qu'avant, c'est-à-dire qu'il faut avoir une étude qui soit un peu plus appuyée. Est-ce que Paris est la ville, je dirais, de prémonition pour ça? J'en suis pas certain, mais en tous les cas, il y a des villes qui sont extérieures où aujourd'hui le marché reste encore attractif et où il est encore bon de louer quand même correctement son bien. Voilà, c'est ça. Et je voulais juste apporter une petite note positive à tout ça, parce que c'est vrai que clairement, si on lit la presse et si on voit un peu toutes les incitations fiscales qui sont vraiment, franchement... aujourd'hui, il n'y a plus rien, c'est simple.
Mais c'est pas ce que vous dites. Il faut, en fait, maintenant, ça demande plus de travail qu'avant, de recherche. Il faut benchmarker le marché. Avant de faire un investissement locatif, il faut regarder voilà, les villes où il y a un encadrement des loyers, les villes où on peut faire une plus-value. Alors, les agents immobiliers ne vont pas aimer que je dise ça, mais c'est vrai que la pierre est devenue quand même un peu un outil de spéculation. On a envie, on a vu des belles plus-values se faire, donc on a envie, quand on est investisseur, de faire ça. Donc, il y a du travail à faire en amont. On ne peut pas acheter comme ça, alors qu'avant, c'était plus le cas.
Exactement. Ça reste pour moi une valeur sûre. Maintenant, bien évidemment, il faut agir au niveau du gouvernement, il faut agir au niveau des ministères pour vraiment démontrer quand même que maintenant, on ne peut plus aller plus loin, parce que là, franchement, on est à l'orée effectivement d'une rupture. Hein. On fait clair quand même, parce que clairement, on gère, j'allais vous dire, pas comme une entreprise, mais comme un État, c'est-à-dire par les charges et non pas par les produits. Donc, à un moment donné, tous ces gens-là payent des impôts. Plus ils gagnent d'argent, plus ils payent d'impôts. Plus il y a de la TVA, parce que plus les entreprises qu'engagent des promoteurs, bien évidemment, gagnent de l'argent. Donc, je pense qu'on ne va pas régler le problème, effectivement, avec toutes ces incitations fiscales qui, en ce moment, et qui touchent d'ailleurs toutes les réglementations qui étaient déjà mises en place depuis des années. Quoi. Mmh. Voilà. Mais ce que je vais juste rajouter, c'est qu'il faut savoir que, en tous les cas, ces incitations fiscales, à l'origine, pour moi, ont été juste faites pour pouvoir baisser les prix. Puisque les prix ont augmenté aussi de manière conséquente. En France, aujourd'hui, il faut être assez subtil là-dessus. Et quand on a voulu augmenter les taux de crédit aujourd'hui, c'était pour pouvoir baisser les prix derrière.
Bien sûr.
Et ce qu'on voit, c'est que clairement, ça se produit dans certaines villes d'une manière assez claire. Mais par contre, dans toutes les villes attractives, ça ne bouge pas. Oui, au contraire,
oui,
ça
par exemple, Bordeaux, c'était les villes qui avaient aussi grimpé hyper vite. Bordeaux, Lyon, il y avait une montée des prix assez anormale au final.
Bah oui, Marseille, quand le TGV est arrivé, c'était 40% par exemple. Est-ce que c'est normal, pas normal, je ne sais pas. Mais
c'est problématique en tout cas pour les propriétaires et puis pour les locataires. Anthony, vous qui êtes juste journaliste, c'est vrai que dans les médias, souvent, alors pas chez nous, mais il y a une vision assez manichéenne. Les méchants propriétaires et les... gentil locataire, comment vous l'expliquez ?
Je voulais juste revenir sur un point par rapport effectivement aux taux de crédit qui ont baissé.
Ouais.
Vous avez dit 3,2% aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont été par le passé parfois beaucoup plus importants. Ils ont même atteint parfois les 15-17%. Le problème n'est pas tellement ça. En fait, le problème, c'est toujours à mettre en corrélation avec le prix, puis surtout avec le pouvoir d'achat. Mmh. On voit qu'il y a eu aussi périodes où notamment les gens avaient des perspectives, notamment sur l'augmentation de leur salaire, qui était beaucoup plus importante que ce qu'il est à l'heure actuelle. Et on voit que un tiers, on va dire qu'on considère que les dépenses liées au logement doivent représenter à peu près un tiers des revenus des ménages, donc environ 33%, et qu'en fait aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, et notamment à Paris, c'est pas 33%, c'est 40%, voire parfois même 50%. En fait, c'est ça le réel problème, c'est pas tellement le taux. Le taux, effectivement, il peut être beaucoup plus haut que 3,2%. Le véritable problème, c'est surtout que en fait, les taux augmentent et les salaires n'augmentent pas forcément, ce qui met certains ménages dans une difficulté quand ils doivent effectivement conjuguer avec le prix du loyer et puis toutes les dépenses courantes liées à
leur vie courante. Sauf que si le taux baisse, vous pouvez acquérir beaucoup plus facilement.
C'est vrai aussi.
Mais... Et avec un montant identique, à la limite, avec un taux d'endettement qui va être à peu près pareil. Et vous pouvez acquérir. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. C'est ça le vrai problème.
Attention.
Peut-être juste sur la vision manichéenne, du coup. Est-ce que c'est ce que vous constatez dans les médias ?
Sur les propriétaires locataires, oui. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui... j'avais justement un chiffre par rapport à ça, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Il faut savoir qu'il n'y a que 3,5% en France des ménages qui détiennent la moitié, 50% des logements en location, et ces ménages, donc 3,5% de l'ensemble des ménages, ont 5 logements ou plus. Donc on voit bien que c'est quand même une minorité de gens qui ont 5 logements ou plus. Donc là, on peut vraiment considérer...
Des multipropriétaires.
Des multipropriétaires. Et quand on a 5 logements ou plus, on peut considérer que c'est vraiment une rente importante et que du coup, ce sont...
Ça dépend. Ah, oh là là, là.
Cinq logements ou plus.
Sylvain, allez-y.
Non, c'est...
Mais c'est une minorité. Encore,
toute la réflexion sur le logement repose sur des choses inexactes qui circulent et on construit des mécanismes législatifs et réglementaires sur des choses inexactes. Les loyers n'ont pas augmenté, ils n'ont pas explosé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, pourquoi ? Parce que depuis 2012, le loyer est réglementé. C'est-à-dire, il y a l'IRL, l'indice de référence des loyers.
Mais est-ce que tous les propriétaires le respectent ?
Ça, c'est un autre aspect, et la plupart le font. Après, qu'il y ait toujours, mais dans tous les mécanismes, qu'il
y a des gens
qui sont en marge, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, depuis 2012, le loyer augmente selon un indice. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on change de locataire, on doit... indiquer le montant du loyer du précédent et indiquer donc pour le nouveau locataire ce montant-là. Et si on regarde les chiffres, les loyers ont augmenté depuis 10 ans de 7,4%. L'inflation a augmenté de 19,9%. La taxe foncière a augmenté à Paris en 10 ans de 82%. Donc là, je vous rejoins, ce n'est pas un problème de loyer élevé et qui augmente et qui explose, c'est un problème de proportion du loyer par rapport à un pouvoir d'achat qui n'augmente pas. Donc en réalité, quand vous avez un salaire qui ne bouge pas et un loyer qui, lui, augmente, mais légèrement, je vais même vous dire, en 10 ans, à euro constant, le loyer diminue. Donc là aussi, c'est une première chose à faire tomber. La rente, mais ça c'est quelque chose qui est inaudible. Quand vous avez de nombreux appartements, mais c'est du travail, enfin. Ce sont des efforts qui sont réunis. C'est aussi des risques qui sont pris. Parce que vous croyez que le fait d'avoir 5, 6, 10, 15, beaucoup plus d'appartements, qu'est-ce que c'est ? C'est un job. C'est un véritable travail. Et en plus, ce sont des propriétaires, qu'ils soient propriétaires d'un seul bien en location ou de plusieurs biens, ce sont des gens qui créent la richesse. Et c'est là où c'est absolument honteux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, non seulement prennent des risques en remboursant un crédit dont ils ne connaissent pas forcément s'il sera assumé jusqu'au bout, parce qu'il y a tellement de charges qui peuvent arriver qu'ils ne mesurent pas. Ensuite, ils logent des Français. Ça évite peut-être à l'État de construire des logements sociaux avec l'argent de la collectivité qu'on n'arrive plus à trouver. Ensuite, ce sont eux qui rénovent. Si on a, effectivement, je crois, c'est 100 millions de touristes chaque année, c'est probablement parce que la France est belle. Et quand on lève les yeux au ciel, on a des biens qui sont entretenus. Mmh. Et surtout...
C'est vrai que c'est pas le cas partout en Europe.
Le cas partout en Europe. Et en plus, ce sont des gens qui appellent les plombiers, des électriciens, qui font travailler les notaires, en cas de contentieux, les avocats, les intermédiaires. Et ils créent la richesse. Et on leur dit, vous créez la richesse, donc vous êtes des rentiers, vous allez avoir derrière un impôt qui va être élevé, et en plus, les filles. Ben moi, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas m'embêter avec tout ça. Je vends tout, je place, j'achète des œuvres d'art ou un yacht. Et là, je n'ai aucun embêtement, et en plus, à travers ça, je n'ai aucune imposition. Est-ce que c'est sain, ça, pour notre société ? Absolument pas. Et c'est là où, justement, il faut que les pouvoirs publics comprennent que ces propriétaires, peut-être qu'ils ont ce que d'autres n'ont pas. Mais il faut savoir qu'être propriétaire, tout le monde ne le sera pas. Ça coûte cher d'être propriétaire. Et il y a toujours eu dans une société ceux qui pouvaient, ceux qui ne pouvaient pas. Mais plutôt que d'appuyer sur la tête de ceux qui peuvent et qui apportent à l'intérêt, qui apportent à la société, qui contribuent à faire en sorte que notre société et nos concitoyens soient bien, eh bien, encourageons-les et faisons en sorte que ceux qui ont envie et qui le peuvent, eux aussi, ces fameux primo-accédants, ils accèdent à la propriété. Et l'État pourra peut-être à ce moment-là se concentrer sur sa mission régalienne, c'est-à-dire s'occuper des plus faibles, des plus démunis, construire des logements d'urgence. Et non pas vouloir irradier tout le marché du logement, mettre de l'argent partout et que le logement, finalement, vive sous subvention de l'État. Vous savez très bien, quand il y a des subventions et que celui qui donne ces subventions est un poumon, quand le poumon ne va plus, va mal.
On le voit. Hein, là.
Donc je crois qu'au contraire, il faut encourager, il faut dynamiser. C'est très enthousiasmant tout ça. Et en plus, les Français rêvent d'être propriétaires. Eh bien, faisons tout pour qu'ils le soient, dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui se produit.
C'est vrai que dans les sondages, le fait de devenir propriétaire, l'accession à la propriété, est un aboutissement pour les Français. On voit cette
envie. Le rêve d'être propriétaire. Ouais. Mais c'est pas du cliché, c'est bien. Et en plus, vous vous rendez compte, vous êtes propriétaire, vous avez un capital qui vous permet d'avoir une stabilité pour votre famille. En cas de difficulté, vous pouvez le vendre. Et ça offre une stabilité pour notre société. Si on a eu pendant 2 siècles une société qui était stable avec... des valeurs qui étaient celles du 19e, mais qui doivent évoluer, qui évoluent, et c'est bien ou pas bien, en tout cas elles évoluent, c'est comme ça. Il y avait quoi ? Le contrat, la famille et la propriété. Aujourd'hui, la propriété vacille. Notre société, elle est en danger. Et on n'a pas justement aujourd'hui trouvé autour de la propriété quelque chose qui permette de fédérer, de dire C'est une valeur qu'il faut encourager. Et je crois qu'au contraire, on sera toujours dans une logique de société de propriétaires.
Mais, Anthony.
Non, alors. Mais quand je disais rente, c'était pas du tout.
Le pauvre Anthony,
non,
il s'est fait.
Ça véhicule une image. Rentier. Et oui, le rentier du 19e, c'est celui qui.
Il
n'y
avait rien de péjoratif.
Son loyer, c'était qui se barre.
Il y avait rien de péjoratif, mais c'est vrai que c'est repris de.
Non, mais c'est juste un. Déjà, justement, c'est ce que je disais par rapport aux chiffres. Je disais que 3,5% des ménages. 3,5%, on ne peut pas considérer que c'est comme une majorité.
Ça n'a aucun sens, monsieur. C'est important. Des ménages détiennent. Le mot rendement, je n'aime pas. Le mot rentabilité, je n'aime pas.
Des ménages détiennent la moitié.
Quelque chose qui est capitalistique. Alors, c'est vrai que la rentabilité, c'est important. En réalité, un rendement, qu'est-ce que c'est? C'est essayer de se procurer un complément de revenu à une retraite qui est faible. C'est ça l'objectif. Oui. Ça passe par un outil économique, mais dans l'esprit des gens, c'est quoi la rentabilité? C'est finalement engranger, au détriment des autres. Non. C'est pas du tout ça. Parce que quand moi, je m'assume tout seul en qualité de propriétaire, je ne demande rien aux autres. Ce qui permet à l'État, en collectant de l'impôt, de s'occuper de ceux qui ne peuvent pas. Et ça, c'est son rôle et c'est important. Oui. Les mots ont un sens.
Stéphane,
encore
alors...
plus aujourd'hui.
Oui, pour compléter ce que dit Sylvain, on nous a même parlé effectivement de rente immobilière. Oui. On nous a dit que l'immobilier n'était pas de l'économie réelle. Hein, c'est quand même assez fou.
C'est hallucinant.
Mais de toute façon, depuis 7 ans, les choses sont claires. Il y a une volonté de flécher l'épargne des Français sur les produits financiers, sur la bourse. Le PER est un grand succès. Donc il y a eu une volonté, mais affichée, hein, qui n'était pas un plan secret. Il y a eu une volonté de détourner les Français de l'immobilier, l'ISF supprimé, sauf pour l'immobilier, la flat tax sur tous les produits du capital, sauf pour l'immobilier, la généralisation du plafonnement des loyers, l'interdiction de louer, la réforme actuellement du meublé qui va mettre un coup quand même au dernier système qui permettait effectivement encore de faire des investissements. Donc c'était pas un plan secret, c'était pas un plan caché, il y avait une volonté politique et ça a marché. Ça a fonctionné, il y a des choses qui ont plus ou moins fonctionné, mais ça a fonctionné. Aujourd'hui, on se retrouve avec une carence de logements effroyable. Hein. Enfin, Foncia et tous les administrateurs de biens le disent tous les jours, effectivement, il y a 20, 30, 40, 50 appels pour une annonce. Les gestionnaires avec lesquels je travaille me disent tous les jours, mais ne mettez surtout pas notre numéro de portable sur l'annonce, parce qu'on va être, effectivement... Donc voilà, aujourd'hui, ce plan, effectivement, a fonctionné. Mais sauf que on a un bug majeur puisque il n'y a plus rien à louer, tout simplement.
Comme les mots ont leur importance, effectivement, je pense que Sylvain voulait simplement dire qu'il n'y en avait pas assez. Hein. Il disait qu'il n'y avait que 3,5% d'entiers, donc globalement, il voulait peut-être dire ça. Non,
que Anthony, oui.
Mais comment vous voulez c'était
non, mais moi, ce que je disais, c'est effectivement, quand je disais rentier, c'est quand je dis que 3,5%, c'est une extrême minorité de personnes. Alors, on va peut-être pas utiliser le mot rentier, parce qu'a priori, c'est pas le
c'est
mot forcément.
Voilà. Donc, multipropriétaire.
On va dire multipropriétaire, en tout cas, qui possède 5 logements ou plus. 3,5% étant une extrême minorité, ce qui veut dire que pour le restant, ce sont des gens qui, effectivement...
propriétaires, entre guillemets.
Possèdent, à la rigueur, leur logement principal et un investissement à côté qu'ils louent à un particulier. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que la majorité des Français sont justement des petits propriétaires qui ont leur logement principal et qui ont à côté un investissement pour effectivement compléter une retraite, pour louer à côté. Mais que les multipropriétaires, comme on les appelle en France, justement, c'était le sens de mon propos, sont minoritaires par rapport à ce que l'on peut entendre.
Mais ce ne sont pas des multipropriétaires.
Cinq logements ou plus.
Non, c'est pas raisonné comme ça. Il faut voir les choses totalement différemment. D'abord, petit et grand propriétaire, j'aime pas cette expression. Il y a des propriétaires où il n'y en a pas. Et quand on est propriétaire, il y a des propriétaires qui sont plus dimensionnés. Et ceux qui sont dimensionnés, ce sont ceux-là. Ils font de l'immobilier leur outil de travail. Et ils sont considérés comme des particuliers. Mais ce sont eux, et grâce à eux, qui vont aller dans les régions aménager le territoire. Ce ne sont pas les gros promoteurs qui vont aller s'occuper des dents creuses ou de la surélévation. C'est grâce à ces investisseurs qui prennent des risques, d'abord qui souvent partent de rien, et qui constituent effectivement un outil de travail qui est fondé sur l'immobilier. On a une industrie... Là, ça ne pose pas de problème qu'on soit un industriel avec une fortune inouïe. Mais n'empêche que certains, parmi ces 3,5, et je ne donnerai pas de nom, emploient jusqu'à 5 000 ou 6 000 salariés. Il y a derrière tout un écosystème qui est mis en place et qui est un écosystème économique, social, etc.
Alors on me dit en coulisses que c'est 1,1, la moyenne pour un propriétaire, c'est 1,1 logement.
Vous vous rendez compte? C'est rien.
1,1, oui, donc c'est quand on fait la moyenne. Après, il faudrait voir la médiane. Mais en tout cas, c'est vrai que j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez, hein, les propriétaires perdent de l'argent. On va parler de l'actualité législative dans quelques secondes. C'est vrai, ça, il y a des taxes, il y a des impôts, ça donne plus envie. Au final, comme vous disiez, bon, vous aimez pas ce mot, mais la rentabilité n'est plus là. On gagne plus grand-chose en étant propriétaire. Et il y avait eu un commentaire sur LinkedIn en disant et la bourse, parce que vous aviez dit que je crois que la bourse était moins risquée.
Moi, je n'ai pas dit ça, moi.
Non, ou je ne sais plus, quelqu'un avait dit. Oui, mais c'est vrai aujourd'hui, quand on regarde, si on investit par exemple, je ne sais pas, sur un ETF qui Nasdaq, ça fait comme ça, hein, et depuis des années, et on gagne beaucoup plus.
14%.
Mais bien sûr.
En 2023, et alors, 12% en 2024.
Nasdaq, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, je suis aussi les marchés financiers, et ça donne envie d'investir quand on voit ça.
Bien sûr.
Ça ne donne plus envie de se faire mal à.
Alors, on dresse un tableau un petit peu dur pour l'immobilier, mais on est là aussi pour ça, pour peut-être faire réagir, etc. Il y a encore de très bonnes affaires en immobilier.
Ouais,
il y a de très bonnes affaires en ce moment avec les passoires thermiques, notamment parce que personne n'en veut, les interdictions, etc. Il y a des coups de fusil, entre guillemets, à faire à l'achat. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui...
C'est qui le vendeur aussi ?
Oui, bien sûr.
Ah ben,
bien sûr. Oui,
c'est un particulier.
Bien sûr, bien sûr.
Qui va vendre avec 20 ou 30% de moins.
Nous sommes
je
d'accord.
Je trouve pas ça sain.
Ah non, mais
vous comprenez.
C'est pas sain.
C'est une acquisition qui est faite au cours de peut-être 20 ans ou 15-20 ans de financement.
Bien sûr.
Et au bout du compte, cette pauvre veuve qui a une pension de retraite faible, voire ou pas, et une pension de réversion donc qui est peut-être inexistante, se dit j'ai toujours vécu là. C'est là où ma famille a été élevée. Mmh. C'est là où je pensais à travers ce petit bien locatif compléter mon revenu. Et ben je me contente de
d'accord.
peu et je vais vendre. Vais vendre parce que je ne peux pas rénover. Et là, effectivement, les acheteurs arrivent avec des bons coups. Ce n'est pas ça.
L'interdiction des passoires, nous sommes d'accord, c'est une hérésie. En tout cas, là où on en est actuellement, avec le manque de logements qu'on a à sortir, 5 millions
Je rappelle que ça devait être décalé ou que ça devait être ajusté,
c'est
ça ne l'a pas été.
Et moi, je suis absolument certain. J'ai déjà parié plusieurs fois, mais les dates ne seront pas tenues parce qu'elles ne sont pas tenable.
Donc 2025, 2028, 2034.
Je suis d'accord que pour des investisseurs, c'est un peu des profiteurs de guerre, entre guillemets. C'est-à-dire que, mais aujourd'hui, c'est justement pour ça que, et je voulais y arriver à ça, aujourd'hui, il y a encore un petit chemin pour faire du rendement sur l'immobilier locatif. C'est encore possible. Mais dans les zones tendues où on plafonne les loyers, c'est quasiment impossible d'avoir une rentabilité correcte. Il reste encore des secteurs, effectivement, mais il faut sortir un petit peu des zones tendues, mais ce qui est un peu dommage parce que c'est là où sont les besoins. Mais avec notamment la réglementation, notamment sur les plafonnements des loyers, la location nue en zone tendue, c'est une impasse. Mmh. Encore une fois, puisque entre les taux du plafonnement et de la fiscalité, c'est impossible de trouver de la rentabilité. Donc, il y a encore des choses à faire dans les zones détendues, ou alors dans les zones tendues, mais sur les villes périphériques qui ne plafonnent pas les loyers, notamment sur l'Ouest parisien, il y a encore des rentabilités tout à fait convenables à faire sur des biens très dégradés, effectivement, en profitant, entre guillemets, du marché des passoires thermiques qui est à l'agonie, notamment en profitant notamment des mécanismes de déficit foncier qui ne sont pas remis en cause et qui peuvent être tout à fait intéressants, qui peuvent vous effacer totalement vos loyers pendant 10 ans. C'est quand même pas rien, avec des travaux. Et puis là, pour le coup, les travaux, c'est bon pour les artisans, c'est bon pour les propriétaires, c'est bon pour les locataires, c'est bon pour les planètes, c'est bon pour tout le monde. Ça fait de la TVA.
Absolument.
Tout le monde est content. Donc, il y a encore des lignes de crête, il y a encore des possibilités, mais c'est là où je voulais en venir. Ça demande des compétences, des connaissances, etc. C'est-à-dire que c'est quasiment plus accessible à un particulier lambda. C'est-à-dire qu'il faut... on est tellement sur... des choses ultra précises et ultra techniques. Il faut connaître par cœur la fiscalité, il faut aussi connaître en travaux, etc., qu'il y a encore des choses à faire, mais ça s'adresse quasiment uniquement à des spécialistes ou alors vraiment à des gens qui sont très bien accompagnés.
C'est ça, très bien accompagnés.
Mais le particulier lambda, il n'y comprend rien.
Vous oubliez que l'UNP est là pour accompagner.
Bien sûr, bien sûr.
Non, mais c'est vrai que c'est votre rôle.
Mais bien sûr.
En tant que propriétaire, on adhère et on a accès à plein d'outils.
Bien sûr, on sent qu'il y a cette envie d'acquérir, mais il y a un maquis législatif, réglementaire, une crainte, une fiscalité qui est confiscatoire.
Et rétroactive.
Alors on va faire un point sur la fiscalité juste après.
C'est important. Ouais. Mais donc il faut accompagner, ça c'est sûr.
Jean-Louis, juste, on parlait du profil de ces propriétaires. Est-ce que vous pouvez nous dresser peut-être le profil du propriétaire chez Foncia, le propriétaire bailleur, j'entends?
Non, propriétaire bailleur, c'est celui qui a été décrit tout à l'heure. Ouais. C'est un propriétaire qui a un bien, il n'y a pas de virgule, puisque c'est
parce
un...
Parce que vous avez la data.
On a la data, bien évidemment, mais c'est exactement ça. Voilà. Donc c'est ce profil-là, ce n'est pas un profil de gros propriétaire qu'on voit partout, et ainsi de suite. On n'aime pas les mots. Je reviens sur les mots parce que ça me marque un peu. Il faudrait qu'en France, on passe un peu le cap des mots. Hein, parce qu'il y a un moment donné, je veux dire, c'est pas grave de faire de la rentabilité, de gagner de l'argent ou qu'un propriétaire en gagne parce qu'il a investi, parce qu'il s'est investi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, à juste titre. Ouais, au bout d'un moment, je pense qu'il y a des caps à passer et il faut les pousser. Parce que moi, je voudrais revenir simplement, c'est en dehors des données aussi, depuis le début, on ne parle pas du manque de logement. Quoi. On manque de logement en France aujourd'hui. C'est-à-dire que, clairement, les institutionnels ne fournissent pas assez de toute façon et ce n'est pas forcément les mêmes profils de logement qu'il y a aujourd'hui, les bailleurs sociaux non plus. Donc, clairement, les investisseurs privés ont quand même un rôle à jouer dans le logement, c'est-à-dire d'un point de vue économique, tout simplement. Donc, il faut faire très, très attention à ça parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de quoi loger tout le monde. Il y a un changement aussi démographique, on va dire. Hein, les couples recomposés beaucoup plus qu'il y a quelques années, les enfants qui font plus d'études.
On vit moins nombreux dans chaque foyer.
Exactement. Donc, on a besoin de plus de foyers qu'hier. Et ça, c'est quand même une donnée importante déjà pour se poser la question, justement, derrière des incitations fiscales ou pas, d'ailleurs, entre guillemets, en tous les cas, d'éléments qui vont nous permettre de pouvoir accéder à la propriété. Puisqu'effectivement, on est un peuple de propriétaires, on le sait depuis un moment, et c'est bien comme ça, moi, je trouve aussi, bien évidemment. Mais c'est tout à fait normal qu'on ne perde pas d'argent, je dirais, en faisant ça, parce que c'est quand même la première des logiques. Voilà. Mais aujourd'hui, quand même, un des cadres, c'est vraiment, on manque de logement, quoi. On manque de logement, le neuf est en recul de 50%, donc clairement, on ne construit plus, on fait court, hein, les permis de construire sont réduits. Nos amis promoteurs font ce qu'ils peuvent aujourd'hui, mais c'est compliqué.
C'est la pire année, hein, depuis des décennies.
C'est la pire année qu'on ait jamais connue. C'est pour ça qu'il faut se poser vraiment des questions aujourd'hui sur tout ce qu'on a dit depuis le début, parce que clairement, il faut trouver quand même une solution. Je recommence peut-être par rapport à tout à l'heure, mais les solutions peut-être qu'on avait jusque-là ne sont peut-être pas idéales, hein, j'en sais rien, c'est peut-être, mais en tous les cas, s'il va falloir inventer quelque chose, c'est une certitude.
Voilà. Le mieux, il y a des solutions qui sont beaucoup plus rapides que de faire du neuf. Le neuf, c'est bien. C'est simplement, pourquoi n'a-t-on pas étendu le prêt au zéro au primo-accédant dans l'ancien, sans condition?
Ça peut être une solution.
Ça permet d'avoir immédiatement un logement, parce que quand on construit, ça prend du temps. Donc d'abord, ce n'est pas un effet qui est immédiat. La deuxième chose, c'est qu'on va construire en périphérie dans des conditions qui ne sont pas géniales, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, donc ce vont être des biens qui ne vont pas être très pérennes. Dans 30 ans ou 40 ans, on n'en voudra plus parce que ce sera très moche. Et en plus, c'est en périphérie, donc on est contraint par le ZAN, donc on commence déjà à envisager de l'assouplir et il ne faut pas l'assouplir. Donc première chose, c'est quel est le stock dont on dispose, l'existant, encourageons les Français à s'occuper de l'existant, à rénover, à surélever, à faire des divisions parcellaires, les dents creuses, on densifie les villes, Action Cœur de Ville aurait tout son rôle, et on limite les transports, on réunit le travail avec le logement, et après, le résiduel, c'est de construire, bien sûr, c'est pas en opposition, c'est accompagner l'un et l'autre selon des besoins. Et vous vous dites qu'aujourd'hui, on manque de logement, mais dans 30 ans, il y en aura trop, la démographie est ainsi faite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là aussi, ça peut être compliqué.
Alors, vous m'avez un petit peu devancé, parce que ça, c'était la partie d'un, pardon, c'est pas grave. Anthony, vous vouliez réagir peut-être sur ce qui s'est dit. Et dans quelques instants, juste après, on passe à l'actualité législative pour décortiquer rapidement.
Non, juste pour compléter un peu le portrait robot de l'investisseur aujourd'hui. Donc, effectivement, on parle de classe moyenne, supérieure, même si après, on englobe un petit peu ce que l'on veut par rapport à ça. Par contre, j'étais assez étonné sur la... Alors, il y a une surreprésentation des 50-64 ans, mais en revanche... Et ça, j'étais assez étonné pour le coup. Parmi les 18-29 ans, il y a environ 50% donc de cette catégorie d'âge qui envisageraient d'acquérir un bien immobilier, même si 8% sont passés à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'ont fait. Ouais. Donc, il y a un taux de transformation qui est quand même assez faible. Mais en tout cas, il y a une véritable volonté de leur part. Et ça, pour le coup, j'étais assez étonné parce que je ne pensais pas que justement les jeunes... par rapport à toutes les réglementations dont on a parlé, toutes les contraintes, étaient encore intéressées par le fait d'investir dans la pierre. Alors, ça reste le deuxième investissement derrière le livret A, mais en tout cas, ça voilà, ça prend quand même du poids. Et les 18-29 ans sont au-dessus, en termes de volonté, sont au-dessus de la catégorie, on va dire, supérieure, c'est-à-dire à peu près 30-40 ans, qui sont environ 30-40% dans une volonté d'achat. Donc on voit que les plus jeunes, manifestement, manifestent un intérêt pour la pierre et pour effectivement devenir acquéreur et faire un investissement locatif.
Non,
sur l'investissement locatif, pas sur la résidence principale.
Alors,
malgré toutes les contraintes, encore une fois.
Donc, c'est un produit avant d'être un attachement à la pierre et sa résidence principale. C'est intéressant.
Ouais. Donc, c'est vrai que les Français ont une pierre dans le ventre, on peut le dire. On passe tout de suite à l'actualité législative.
Le MAC de l'IMO sur Radio IMO.
Alors, il y en a eu des changements pour les propriétaires bailleurs. Quelle loi, quelle mesure, Stéphane, est-ce qu'on peut... alors, il y a l'encadrement des loyers. Ça, on l'a déjà évoqué. Hein. Est-ce qu'on peut faire un petit point justement sur les nouvelles lois, sur ce qui fait partie du budget aussi 2025, car maintenant, oui, on a un budget 2025. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo, Stéphane ?
Oui, alors le fait majeur concerne le meublé, hein, notamment, puisque alors on avait déjà eu avec la loi Lemeur donc la réduction des avantages pour la location saisonnière, la location de courte durée. Oui. Donc, c'est pour ça que cette loi s'est appelée loi anti-Airbnb, ce qui peut très bien se comprendre, hein, parce qu'avec effectivement le manque de logements qu'on a en location à l'année sur des secteurs tendus, donc bon, qu'il y ait une volonté de freiner, ça peut se comprendre. Donc, bon, on a tous compris effectivement, notamment qu'il y avait des abattements qui étaient plus intéressants pour la location courte durée, 50 ou 71. Donc, ils sont ramenés à 30% d'abattement donc sur ces loyers, donc comme le micro foncier. Et les seuils baissés, les plafonds baissés considérablement. Et pour le meublé, alors ça, en revanche, alors on l'attendait, on l'a vu venir depuis un moment. Il y aura donc dorénavant une reprise des amortissements. Vous savez que vous connaissez le principe d'amortissement en meublé. Donc, soit on fait le forfait, donc l'abattement, soit on prend les amortissements. Bon, beaucoup d'investisseurs prenaient l'amortissement parce que ça permettait de neutraliser les loyers quand même, en quelque sorte, sur des périodes assez longues. Donc, ces amortissements donc, vont être maintenant déduits pour le calcul de son prix de revient pour la plus-value. C'est-à-dire que, en gros, ce que vous avez économisé pendant la vie de votre investissement, vous le payez à la sortie. Alors, à part si vous gardez très longtemps...
C'était quand même l'avantage du dispositif LMNP, hein, donc loueur meublé non professionnel.
C'était effectivement un merveilleux paradoxe. C'est-à-dire qu'on était à la fois traité comme une entreprise pendant la vie de son investissement et à la sortie, on était traité comme un particulier. Donc, il y avait un petit peu un paradoxe de ça. Tout le monde s'attendait à un jour ce soit remis en cause. En revanche, qu'il y a beaucoup de mal à passer auprès des investisseurs, c'est qu'on aurait très bien imaginé et on s'attendait à ce qu'on nous dise, bon, bah, à partir de maintenant, oui, à partir de 2025, tout ce que vous allez amortir, soit pour les nouveaux investisseurs, soit même pour les investisseurs plus anciens, de pouvoir leur dire, bon, ce que vous amortissez à partir de 2025, donc seront déduits de votre assiette de calcul pour la plus-value. En revanche, ce qui a vraiment beaucoup de mal à passer pour les investisseurs, ce qui est de la rétroactivité en quelque sorte, ça concerne y compris les amortissements que vous faites depuis 10 ans, depuis 15 ans. Donc c'est une forme de rétroactivité et ça c'est un coup très grave pour la confiance.
Confiance. Donc ça veut dire qu'il y a par exemple 5 ans, il y a des investisseurs qui ont fait le choix de ce statut LMNP en se disant tiens, ça va être bien pour moi comme investissement. Oui. Et là, au bout de 5 ans, et bah, paf, le coup prêt tombe et qu'on change de fiscalité.
On change les règles
et...
du jeu en cours de partie. Ouais. Donc, et ça, pour la confiance, c'est extrêmement grave. Et moi, j'ai énormément d'investisseurs qui m'ont dit, terminé, on ne m'y reprendra plus. Hein.
Bien sûr.
Parce que de changer les règles en cours de partie, vous brisez la confiance. Et une fois que la confiance est cassée, c'est
terminé. Alors, j'ai discuté de ça avec la députée Anne Aiglemeur, parce que ça vient d'elle, en fait, cette mesure. Donc, c'était elle qui l'avait proposée. Et je lui ai dit, comment vous m'expliquez ça? Parce que c'est vrai que on attend un statut du bailleur privé. Vous dites que vous voulez aider, accompagner les propriétaires, donner envie d'investir dans la pierre, parce qu'ils ont conscience qu'il y a un manque de logement. Elle m'a répondu que cette mesure faisait partie d'une liste de mesures qu'elle voulait faciliter, vous l'avez dit, l'investissement dans le nu, qu'il y avait d'autres avantages à côté et que, bref, n'avait été retenue que cette mesure, hélas. Voilà où on en est.
Oui, enfin, en l'occurrence, effectivement, tout le monde nous dit, et Madame Lemeur la première, on veut freiner le meublé pour avantager le nu, mais sauf que pour l'instant, il n'y a que les mesures anti-meublées et il n'y a pas de mesures pour le nu.
Incitatives, et puis
rien. Donc, en fin de compte, c'est comme un médecin qui se dirait, ma foi, j'ai un malade qui est subclaquant, donc le nu est en train de mourir, plus personne ne veut faire du nu. C'est un non-sens économique dans les zones tendues. Donc, pour mon malade meublé qui se porte bien, je vais essayer de lui appliquer le même traitement que celui qui est en train de mourir, puis on va voir ce qui se passe. Je vais vous dire, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus de meublé non plus. C'est-à-dire qu'on a tué le nu et on prend le chemin de tuer aussi le meublé. Mmh. Ma foi, on verra.
Alors justement, j'aimerais avoir l'avis de vous, Jean-Louis, de votre avis. C'est vrai que là, l'État, le gouvernement veut donner envie aux Français d'investir dans le nu. Vous, concernant ces gestions de biens, c'est quoi ? C'est plutôt du meublé ? Est-ce qu'il y a du nu et est-ce que vous constatez une appétence des locataires plutôt pour le meublé parce qu'il y a aussi l'évolution des besoins, des tendances. C'est vrai que le meublé plaît de plus en plus parce qu'on a besoin souvent de logements clés en main.
Oui, le logement meublé plaît de plus en plus, ça c'est une certitude et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a attaqué ce point-là. Mais sur la loi Lemeur, il y a plusieurs incohérences quand même. C'est déjà je ne suis pas certain que globalement ça va améliorer les choses. Deux, en plus de ça, les communes peuvent donner leur avis sur le montant à adopter, puisqu'il y a une tranche, je m'en souviens plus le montant, mais il y a une tranche sur laquelle ils peuvent agir. Donc ça veut dire que chaque commune peut faire un peu ce qu'il veut. Ouais. C'est quand même étonnant pour moi. Deuxièmement, c'est même pas relié à la loi de 89, parce que globalement, pour le DPE, on est en G sur la loi de 89, je crois qu'on est en E sur la loi Lemeur. Enfin, sincèrement, je comprends pas bien. Je pense qu'il n'y a aucune action. Je vais être très clair. Je pense que c'est encore une niche qu'on avait. Ils ont dû, à mon avis, énumérer toutes les niches et ils les ont toutes enlevées. Comme ça, au moins, le problème est réglé. Et il n'y a plus de niche. Peut-être, j'espère, en tous les cas, et je le souhaite, et en tous les cas, c'est là où on agit pour repartir sur autre chose. Après, je pense qu'ils sont pas au bout de la réflexion quand même, parce que je pense que c'est important de ne pas être au bout, et moi aussi, bien évidemment. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il reste pas grand-chose. On n'a pas parlé, il reste un peu peut-être le démembrement aussi. Tout à l'heure, vous disiez démembrement social.
Alors, on va éviter de trop en parler, parce que sinon, ça va leur donner des idées. On va peut-être pas le dire, c'est vrai, non mais on en arrive là. Question Jean-Louis, j'ai perdu le fil. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que vous ne déplorez pas le fait qu'on constate, c'est clair que ces mesures, ces lois sont adoptées sans aucune étude d'impact ?
Ah ben c'est pas d'aujourd'hui.
Mais c'est quand même dramatique.
C'est dramatique. La plupart du temps, c'est sans étude d'impact. Deux, c'est sans prendre en considération quand même. Parce qu'il y a un peu de lobbying quand même, je pense, de toutes les parties autour de la table. Et globalement, on s'aperçoit que, effectivement, malgré ça, on n'arrive pas à avoir au moins quelque chose entre deux qui nous permette de pouvoir agir sur l'immobilier aujourd'hui. Mais pourquoi ? J'en sais rien. La politique, c'est compliqué. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir agir, quoi. Clairement, aujourd'hui, on ne peut pas supprimer toutes les niches. On peut pas mettre les gens contre le mur, comme on dit. On peut pas revenir sur une législation qui était claire. En tous les cas, pas comme ça en cours, parce que là, on est quand même en cours. C'est ce que disait tout mon confrère tout à l'heure. Mais il va falloir trouver quelque chose. Quand même.
Certains de vos clients se sont plaints justement de ce fameux statut LMNP retoqué. Est-ce qu'il y a eu des craintes de la part de des propriétaires dont vous gérez les biens?
Il y a des craintes, oui. Puis comme il y a des craintes des agents immobiliers aussi, parce qu'il y a des sanctions quand même, faut pas l'oublier. Clairement, oui. Je crois que c'est à hauteur de 100 000 euros, si ma mémoire est bonne. Donc ça veut dire que non seulement le propriétaire peut être voué à des sanctions, mais l'administrateur aussi, clairement. Donc de la même manière. Donc il y a des questions, oui, clairement.
Anthony, vous vouliez réagir ?
Non, je voulais juste revenir effectivement sur la loi Lemeur, sur la régulation des meublés de tourisme, qui est quand même assez... étonnante. Enfin, il y a quand même des dispositifs, notamment sur la durée, c'est-à-dire qu'on devrait passer de 120 jours de location pour un meublé de tourisme à 90 jours sur appréciation des différentes communes, c'est-à-dire que ce n'est pas une mesure obligatoire, mais en tout cas, je sais que c'est la commune de Marseille, par exemple, avec le maire de Marseille, qui a décidé justement de passer donc, de 120 jours à 90 jours. Je me demande, à part des éléments de communication, ce que ça va réellement changer. Et puis surtout, l'investissement, enfin, je veux dire, le comment dire, par rapport à la location de meublé, on parle de quoi? On parle de personnes qui ont un investissement locatif ou qui louent leur résidence principale. On a vu ce qui s'est passé lors des JO de Paris, par exemple, où en fait, beaucoup de personnes en ont profité pour quitter Paris, louer leur résidence principale via le dispositif Airbnb. Ça rapportait de la TVA, ça a quand même généré aussi du tourisme, même si on savait qu'il allait en avoir grâce aux JO, mais même hors période JO, on sait que ça crée aussi du tourisme. Que plus les gens louent un Airbnb, plus il y a de la consommation aux alentours, donc plus ça rapporte aussi la TVA avec les commerçants.
Les restaurateurs, je crois que sont les premiers gagnants, ça explose grâce à...
Donc au final, on essaie de faire un combat sur les meublés de tourisme, alors qu'il faille une régulation, probablement. Maintenant, passer de 120 jours à 90 jours et brandir le drapeau en disant « Regardez, on est très courageux, on va mettre des dispositifs pour arrêter de favoriser Airbnb », alors que tout le monde sait très bien qu'on en bénéficie tous, l'État en premier... Je veux dire, ça, c'est quand même assez hypocrite et je sais pas, moi, ça me fait un peu penser à la, enfin, toute proportion gardée, à l'industrie du tabac, quoi. C'est, on sait que ça rapporte de l'argent, mais on veut quand même faire une régulation. Enfin, si, je sais pas, moi, j'ai un peu du mal avec.
Alors après, il y a quand même cette crise du logement qui est là. C'est vrai que l'avocat du diable pour tous les quatre. C'est vrai qu'on manque de logement. On voit qu'il y a des étudiants qui ne trouvent pas de logement. C'est vrai que, voilà, il y a une crise du logement. Vous vouliez réagir, Sylvain? Je vous ai coupé la...
Non, parce que la situation est grave, mais ce qui est grave dans les effets, notamment sur la loi Lemeur, mais elle est grave par l'ignorance et l'incompétence et les responsabilités de ceux qui l'ont prise, tout simplement. Et à partir de diagnostics qui sont faux, 95% des meublés touristiques sont mis à disposition par des propriétaires occupants. Donc résoudre la crise du logement en disant à ces propriétaires occupants, écoutez, vous ne pourrez plus mettre à disposition à ceux qui ont envie d'en bénéficier durant quelques jours, durant différentes périodes, votre logement, sachant que les revenus locatifs qui sont produits vont vous permettre d'alléger un petit peu les charges qui augmentent, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On ne résout rien. Même pire, plus que de résoudre, les maires sont bien contents aussi d'avoir la taxe de séjour. Les restaurateurs sont bien contents d'avoir un afflux de touristes. Également, les métiers qui sont des métiers saisonniers qui sont construits, c'est tout un écosystème. Alors après, on va dire que le syndicat hôtelier va... Mais pas du tout. Quand vous voulez partir une semaine en vacances au sport d'hiver avec trois enfants, eh bien, on est bien content de trouver un meublé touristique parce qu'une semaine d'hôtel, c'est inaccessible. Donc, je crois qu'il y a un mauvais diagnostic. Et derrière tout ça, probablement, et c'est ce que j'avais dit, il y a probablement une idéologie. Parce que l'encadrement des loyers, qu'est-ce que c'est depuis 2014? C'est nous emmener vers la loi de 48. Mmh. C'est faire ressusciter cette loi de 48 dont on a tout fait pour sortir, parce qu'on a bien vu que notre système économique ne pouvait pas souffrir d'une loi de 48. Supprimer la taxe d'habitation. Supprimer la taxe d'habitation en conservant la taxe foncière. Mais inévitablement, on allait attiser cette opposition qui n'est pas saine, mais qui en plus n'est pas fondée entre bailleur et locataire. Mais le bailleur, qu'est-ce qu'il dit? Bon, moi, je paye une taxe foncière, et puis mon locataire, il ne paye rien. Mais en même temps, le locataire, il pourrait effectivement payer, mais on met des oppositions où il n'y en a pas. Et on peut multiplier les exemples. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le vêtement constitutionnel est bien trop grand pour ceux qui essaient de le porter, et qu'il faudrait peut-être effectivement retrouver un peu de sérieux, de responsabilité et faire de bons diagnostics. Le problème avec l'instabilité politique, quand on est dans le gouvernement pour 3 mois, voire 4 mois, on se dit waouh, ça va être du long terme. Non, c'est pas ça. On a cette instabilité politique qui est peut-être l'expression aussi d'une fin de cycle, mais il faut se réinventer, se projeter sur du long terme. Et aujourd'hui, c'est la petite semelle, ce sont des petites mesures qui sont là peut-être parce qu'il faut bien travailler, mais qui ne servent à rien et qui aggravent la situation, me semble-t-il, notamment de ceux qui peuvent produire la richesse, c'est cette classe moyenne. Et cette classe moyenne, ce sont les propriétaires. On les appauvrit. Eh bien, on tire tout le monde vers le bas. Je ne sais pas où ça ira.
Anthony ?
Non, mais effectivement, je pense que par rapport au dispositif Airbnb, j'y reviens. Enfin, concrètement, ce qui est vrai aussi, c'est que peut-être qu'il y a eu à un moment certains abus, notamment dans certaines villes, et on l'a vu, et pas que en France. Hein, ça a démarré à l'époque à Lisbonne. Ouais. Il y a eu Barcelone également. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu un afflux de touristes et je pense que du coup, les responsables politiques, même s'ils savent que c'est complètement inefficace de créer des mesures comme celle-ci, répondent parfois et honnêtement dans des perspectives, généralement dans des perspectives électoralistes.
De pour se faire élire, faut le dire.
Pour
voilà.
Se faire élire, se disent voilà, on va créer des signaux. On sait que ça sert strictement à rien. Limite que ça va nous faire perdre de l'argent. Mais comme les gens râlent, parce que à la fois les commerçants, les restaurateurs profitent de ça, mais les voisins se plaignent parce qu'ils considèrent qu'il y a trop de touristes, que du coup les gens n'arrivent plus à se loger, que s'il y a des touristes, c'est au détriment de leurs enfants qui ne peuvent pas avoir un appartement pour leurs études, et ainsi de suite. Mmh. Bah, les maires sont obligés de trancher, mmh. D'avoir un choix clair. Et je pense que électoralement parlant, aujourd'hui, c'est plus gagnant de dire clairement, écoutez, d'être voilà, on en a marre d'Airbnb, il y a trop de touristes, ok, j'ai compris, vous en avez marre, donc on va mettre des mesures en place, même si elles sont complètement inefficaces, voire contre-productives en termes de ce que ça rapporte.
Allez, et on va terminer. Vos réactions, Jean-Louis,
c'est juste la réaction par rapport à l'OMR sur ce que disait monsieur, qui est très juste, puisque ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une déclaration en mairie obligatoire, déjà aussi, donc ce qui veut dire que référencement, ce qui veut dire plein de choses. Ce qui veut dire aussi qu'entre un professionnel et un particulier, il y aura forcément un sujet, puisque clairement, le professionnel sera obligé de le faire, enfin, j'espère en tous les cas, et le particulier, on sait pas. Et un des aspects positifs par rapport à ce que vous disiez, quand même, sur la loi Lemaire, c'est qu'effectivement, il y a l'obligation des copropriétés de pouvoir consulter maintenant. Alors maintenant, ils sont tellement doués qu'ils ont mis... Ils ont porté attache sur ce qu'on appelle la destination de l'immeuble. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelques référencements dans le règlement obligatoire pour pouvoir voter. C'est invotable, clairement, voilà. Donc, comme d'habitude, c'est même le truc bien qui était dedans, il devient pas bien parce que, clairement, voilà. Et ça éviterait, et ça, par contre, c'est plutôt, pour moi, positif si c'était plus clair, parce que ça éviterait, effectivement, dans les copropriétés où il y a eu des abus, notamment même dans la région parisienne, entre nous, hein, et où franchement, des copropriétaires en ont pâti. De pouvoir mesurer en tous les cas mieux cette loi qui est arrivée, quoi, clairement. Ouais.
Stéphane.
Airbnb, pardon.
Oui, je crois que on a certainement besoin surtout de stabilité. Je crois que ce qui est terrible pour les investisseurs, c'est que les choses changent en permanence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se projeter sur un investissement parce que tout change en permanence. J'ai mon fils aîné qui vit à Berlin, donc je vais souvent le voir. Je me suis intéressé au marché allemand.
Pourquoi c'est trop locataire là-bas.
Pourquoi est-ce que le marché allemand, effectivement, souffre moins, même s'il a des difficultés? Mais pourquoi est-ce qu'il y a moins de difficultés en Allemagne? C'est parce que rien n'a changé depuis 40 ans. Ils ont une loi depuis 40 ans, qui est un principe d'amortissement d'ailleurs, et rien n'a changé depuis 40 ans. Donc les investisseurs savent où ils vont. Les institutionnels, les régions ne sont pas partis. Ils sont restés propriétaires, ils ont développé effectivement du patrimoine, etc. En France, les plus-values, on a changé en 30 ans 14 fois de principe de plus-value. On ne compte plus les lois depuis la loi Méhaignerie-Périssol, on pourrait les égrener comme ça, jusqu'à la loi Pinel. On a eu, je crois, 20 ou 25 lois si on prend les dom-tom, etc. Machin. Et ça change en permanence. Et ça change tellement que on change même le passé. Hein, avec cette notion de rétroactivité pour le meublé qui est vraiment un coup de poignard sur la confiance. Donc, à la limite, moi, ce que je pourrais dire, c'est mais faites n'importe quoi, donnez-nous des règles, quelles qu'elles soient, mais arrêtez de les changer en permanence. Dites-nous, bon, voilà le périmètre, c'est un périmètre connu pour un investissement de 20 ans, de 25 ans, on s'engage à ne jamais revenir dessus, voilà le périmètre, et vous faites pas. Mais de changer en permanence les règles, c'est insupportable. Et surtout, effectivement, au-delà du rendement, au-delà de la prise de valeur, au-delà de la pérennité, du bien pour la société, il faut ramener de la confiance et que les investisseurs puissent à nouveau se projeter, parce que des changements permanents, c'est insupportable.
Et ben voilà, une politique du logement pérenne, je crois que c'est ce que tout le monde réclame, les investisseurs comme les propriétaires occupants et les locataires. Merci beaucoup à vous quatre, merci pour votre expertise, c'était très intéressant en tout cas. Et puis évidemment, cette vidéo, ce live sera disponible, vous pouvez continuer le revisionner en tout cas sur radio.imo et puis sur YouTube Radio Imo. Voilà, merci de nous avoir suivis, à très vite.
Le Mag de l'Imo by Bérénice sur Radio Imo.